Voilà le genre d'artiste pour lequel il n'y a absolument rien à jeter, et tout ça depuis qu'il enregistre, je crois, depuis tout début des années 80, Robert Cray, l'album In My Soul. Voilà. Eh bien, on est rentré tranquillement dans cette deuxième heure du 944e épisode de Sweet Home Chicago. On est ensemble jusqu'à 16h. Après le morceau qui suit, on aura Fabio au téléphone. Fabio Izquierdo des Flying Saucers Gumbo Special, l'album Swamp It Up qui sort dans 9 jours. On poursuit finalement avec les voix féminines de la première heure, c'est vrai. C'est Loretta qui chante sur ce Freedom Man signé Fabio et les Flying Saucers Gumbo Special.
Thank you.
ambiance super lazy, très très swamp dans pas mal d'extraits de cet album, c'est le cas. L'album Swamp It Up des Flying Saucers. Salut Fabio.
Salut tout le monde.
Tu nous entends bien apparemment. Écoute,
ouais, ça marche.
Ça vient de marcher. Ça marche hein, quand on appuie sur le bouton. dis-moi Fabio, tu es chez toi là, tu es du côté de Bordeaux?
Ouais, tout à fait.
Bon, Bordeaux, il y a Loretta également qu'on vient d'entendre.
Oui, qui hélas a dû repousser son concert de ce soir au comptoir pour dans quelques semaines. Voilà, c'est dommage, j'avais prévu d'aller là-bas ce soir, mais je pense que je vais quand même y aller. Il y a Mig et Anthony Stelmazac qui jouent, donc c'est un bon remplacement. Voilà.
Oui, bah complètement. Le comptoir du jazz, j'avais pas forcément l'intention de te poser cette question-là en début, mais le comptoir du jazz, ça existe à nouveau, ça continue, où ça en est le blues à Bordeaux?
En fait, ça a été repris par des investisseurs il y a quelques mois, là, au printemps.
Ouais.
Et a priori, c'est reparti comme en 14, quoi. Nous, on y remet les pieds dans deux semaines, le 4 octobre. Ça fera pratiquement un an et demi qu'on n'y avait pas joué. Voilà, je pense qu'ils sont partis avec de bonnes bases et un bon état d'esprit. Après, on va juger sur pièce, mais on est vraiment content que l'aventure continue et ils ont l'air de se donner les moyens pour faire quelque chose de bien.
Voilà, en tout cas, de meilleures bases et un meilleur état d'esprit, peut-être que
voilà,
la direction précédente.
Les états d'esprit avant étaient mauvais, mais voilà, il y a des petites améliorations du point de vue des musiciens. Après, comme je dis...
Tu veux dire du point de vue de la programmation ou du point de vue des conditions de scène, par exemple?
Déjà, il y a une sono... ils ont investi dans du matériel, ce qui va changer quand même pas mal de choses, je pense, au niveau de l'écoute et de l'accueil du public. Voilà, au niveau de l'effort promotionnel, ils ont l'air de bien mettre la main à la pâte aussi. Donc, affaire à suivre de près. Voilà. Mais nous, en tout cas, on est contents que cette scène perdure dans le quartier.
Fabio, avec les Flying Saucers, c'est important d'avoir un endroit pour jouer chez soi aussi? Un QG?
Oui, c'est important d'avoir des endroits pour jouer partout. Après, chez soi, nous, on a un problème, c'est qu'on n'est plus vraiment de Bordeaux depuis pas mal de temps. Mais voilà, on sait qu'ici, il y a des gens qui nous suivent, qui sont contents de nous voir. Nous, on aime bien aller à leur rencontre, surtout quand on a des nouveaux albums et un nouveau répertoire à présenter pour avoir leur avis. C'est toujours important d'avoir un feedback au niveau du public. Et à Bordeaux, de par l'historique du groupe, c'est là où on a le plus de personnes qui nous suivent quelque part. Et ouais, c'est important d'avoir un endroit où s'exprimer ici même.
Alors, tu dis, c'est important d'avoir un endroit pour s'exprimer partout, et c'est vrai que Flying Saucers, ça fait un bon moment qu'on entend parler de vous et que vous écumez pas mal de scènes. L'existence du groupe remonte à combien de temps? 12 ans, 15 ans?
Existence du groupe 97, donc bientôt...
17 ans.
Ouais, voilà, 18 ans, si les calculs sont bons. 17-18 ans, et autrement, dans sa forme actuelle, avec le line-up qui existe aujourd'hui depuis 2006.
D'accord, avec les mêmes musiciens depuis 8 ans maintenant. Awake vient de fêter ses 20 ans de scène, 1994-2014. Vous, ça sera pour 2017. On a tous des échéances à 2017, finalement. c'est l'objectif, Fabio, de durer le plus possible, avec ou pas le line-up actuel, mais en tout cas de durer.
Franchement, il n'y a pas d'objectif sur la longévité du groupe avec le line-up actuel.
Ouais.
Voilà, on est bien, on se sent bien entre nous, on aime bien les méthodes de travail qu'on a instaurées, on aime bien le rythme auquel travaille le groupe. On a les mêmes objectifs au sein de ce groupe. Si ça doit durer le plus longtemps possible, c'est tant mieux, quoi.
Mmh. Alors tu disais, on n'est plus trop bordelais, c'est vrai que la façade atlantique au niveau de la scène blues elle est assez active, que ce soit entre la Bretagne, la scène nantaise et puis la scène bordelaise. Cédric Le Goff, Fabrice Jousseau, Jean-Charles Duchin, Stéphane Strangère et toi-même Fabius Quiardo, c'est les 5 musiciens titulaires hein, des Flying Saucers. Vous répétez sur internet?
Non, en fait, on répète pas ou très peu. Les seuls moments où on s'accorde, on va dire, un enfermement pour bosser sur le répertoire, c'est lors de résidence,
voilà.
lors de la, de la préparation d'albums, justement, comme on a fait pour ce nouvel album.
Oui, parce que j'ai envie de dire, cet album, il a eu une longue gestation, si j'en crois ce qui est écrit à droite à gauche. Il y a eu plusieurs résidences, il y a eu des enregistrements qui remontent à 2013.
En fait, ça ne se fait pas en une seule résidence. On n'arrive pas avec, tiens, j'ai écrit un morceau, voilà, on va jouer ça, merci, au revoir. ça peut marcher très bien pour certains. Nous, on aime bien vraiment prendre le temps, réfléchir à pourquoi on écrit ça comme ça, pourquoi on décide de le jouer comme ça sur l'album. Et voilà, on pense que c'est essayer de concevoir au mieux comment vont s'imbriquer les instruments et l'état d'esprit général du morceau. Ça prend un petit peu de temps. Il faut y réfléchir, il faut tester, il faut arranger. Et on met un petit peu de temps. Après, quand on voit... Enfin, moi, je trouve qu'on a fait les choses rapidement parce qu'on a commencé les premières résidences en janvier 2013. On en a fait une en janvier. On en a fait peut-être une, si je dis pas de bêtises, au printemps. Et puis deux ou trois pendant l'été 2013. Voilà, en cinq résidences, on a écrit l'album et on est rentré en studio. Après, c'est tout le processus technique et financier qui prend du temps aussi.
Et puis, c'est compliqué la gestation d'un album, même quand on est, enfin, surtout quand on est déjà cinq dans l'ossature, titulaire. Et alors, quand il y a autant de musiciens invités que ça, ça va être un casse-tête pas possible.
Non, pas forcément. On a une méthode de travail qui nous convient vraiment bien. Si je prends l'exemple de certains morceaux où il y a un membre du groupe qui est arrivé avec juste un riff, tout le monde s'implique dedans, fait avancer le schmilblick, déjà on valide ou pas, on essaie de savoir ce vers quoi ça va tendre, quelle est la couleur générale du morceau. Après, l'idée c'est de le construire en se mettant à la place d'un auditeur ou du public, savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire sur un disque et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, parce qu'il y a aussi une version live qui évidemment ressemble pas du tout à la version album. On s'est trouvé une méthode de travail qui nous va vraiment bien, qui nous convient pour ce genre de boulot.
Alors pour le choix du répertoire, Fabio, on disait un album, c'est vrai, à gestation relativement longue quand même, hein, je veux dire un an et demi entre le début et puis le processus de sortie de l'album, on est en plein dedans maintenant. Il y a eu des choix forcément à faire, il y a eu peut-être, j'imagine, une vingtaine, 25 morceaux et puis ensuite on a coupé, ou est-ce que c'était vraiment les 12 et puis pas un seul d'autre ?
Non. Là, on est arrivé en studio avec ces 12 morceaux, point barre.
D'accord.
Ouais. Les seuls déchets, et encore quand je dis déchets, c'est un bien grand mot, les seuls titres qu'on a enregistrés et mis de côté, c'est un autre titre avec Sugar Ray, un autre titre avec Jimmy Burns, parce que, par sécurité, on voulait faire plusieurs titres avec eux et choisir ceux qui nous semblaient les plus opportuns à mettre dans cet album. Il y a juste deux morceaux, mais qu'on n'a même pas jeté, qu'on a mis de côté en se disant,
t'as bien fait
pour un prochain peut-être, ah, oui. Ça rentre dans l'état d'esprit de l'album.
Alors tu viens de citer deux musiciens américains, on va d'abord parler de Jimmy Burns. La rencontre, elle s'est faite essentiellement sur scène, sur internet avant, et puis j'allais dire, c'était vous le band officiel de Jimmy Burns sur les tournées européennes.
C'est par l'intermédiaire d'Aurélie Roquet et sa structure. On avait déjà travaillé avec elle sur le projet Sugar Ray avant. Mmh. C'est passé un petit peu de la même manière. Voilà, elle cherchait un backing band français pour des raisons budgétaires pour l'accompagner. Au début, ça devait pas du tout être nous qui devions assurer l'affaire. Pour des problèmes d'emploi du temps, il s'est retrouvé qu'on s'est retrouvé aux commandes. On a fait une première tournée avec les Flying, après on a fait une espèce de mix entre la première équipe et les Flying pour une deuxième tournée. Et c'est comme ça qu'on a lié des relations plutôt étroites avec Jimmy.
Alors comment s'est faite la connexion ? Est-ce que Jimmy a été Flyingisé ou est-ce que vous avez été burné, les gars ?
Pour la tournée, on était là pour bosser pour lui, donc on a fait son répertoire. Ouais. Voilà, ça, c'est le but du jeu aussi, hein, c'est de se mettre. On accompagne quelqu'un, on va pas lui demander de venir faire notre répertoire, c'est à nous de se mettre à son service et de faire au mieux pour que ça fonctionne pour lui. Il a un répertoire à défendre. Et nous, pour parler trivialement, à partir du moment où on accepte et qu'on trouve le répertoire intéressant pour nous et en plus la relation humaine intéressante, on ferme notre gueule et puis on travaille pour ce monsieur. Mmh. Voilà, c'est le but du jeu. Hein. On est ses musiciens. Et c'est pas à nous de lui dire « Ah non, tiens, j'ai plutôt envie de faire ça que ça ».
Et là, c'est une démarche complètement inverse parce que vous l'avez invité sur l'album. J'imagine qu'il n'a pas hésité une seconde. Enfin, ils sont comme ça, les Ricains.
Non, ça s'est fait de suite. Bon, j'avoue que pour l'un comme pour l'autre, on n'en menait pas large quand on a eu cette idée-là.
Ouais.
Après, on en menait encore moins large quand on leur a dit, voilà, par contre, on a bossé pour toi, maintenant c'est toi qui vas bosser pour nous.
Oui, en même temps, si tu ne demandes pas, tu n'auras pas de réponse, quoi. Il faut y aller, il faut se lancer.
Ouais, c'est clair, mais voilà, nos petits Français, que ce soit avec l'un ou l'autre, Jimmy, quand on voit les années de carrière qu'il a et les pépites qu'il a enregistrées pour Delmarque dans un répertoire bien particulier, et Ray qui était un artiste qui était en train d'exploser, qui explose toujours d'ailleurs, on ne sait pas trop, même si les rapports sont excellents, on a envie de les avoir avec nous sur le disque, mais à certaines conditions, on ne sait pas trop comment leur présenter. Mmh. Et ça s'est fait finalement de manière très naturelle, ils ont accepté très facilement. C'était juste rigolo pour nous de leur dire, bon maintenant tu vas bosser pour nous, c'est ça qu'on attend de toi.
Voilà, Jimmy Burns, et puis Sugar Ray également, Sugar Ray Rayford, qu'on a découvert il y a un petit peu, à peu près 8 ans, lors des tournées des Home Kisses Boys, et puis ensuite accompagné par les Flying Saucers, ça remonte déjà un petit moment, je me souviens
2011,
d'une date...
la première tournée.
Je me souviens d'une date au Subok avec la date à Band Blues juste le lendemain, c'était juste de la foule. C'était tip top ça.
Ah, ça a été vraiment une super rencontre avec lui. Ceux qui le connaissent de toutes les façons savent que c'est un mec en or et que ça ne peut que bien se passer avec un bonhomme pareil.
C'est quelqu'un c'est un leader incontestable et c'est quelqu'un de très stimulant sur scène. Enfin, j'imagine que on doit jouer à 200% avec un mec pareil.
Ah, c'est un pouce au cul. Hein.
Ouais.
Ouais.
Voilà, tout est dit, je crois.
non, et puis bon, voilà, il donne, il a envie de donner au public. Quand on lui dit, le contrat, c'est tu fais une heure ou une heure et quart de concert, au bout de 2 heures, il dit, au fait, c'est bon, je suis dans les temps. et
c'est pour ça que je joue toujours en dernier, en fait.
Il demande toujours à ses musiciens d'essayer de faire autant que lui fait sur scène.
Mmh. J'allais dire, Fabio, c'est pour ça que je joue toujours en dernier. Enfin, les programmateurs, ils ont toujours le nez creux pour dire Sugar Ray va le mettre en dernier parce que personne ne peut être encore plus péchu, dynamique que ce que ce gars-là, quoi, derrière.
C'est clair que c'est difficile de passer derrière lui. Voilà. C'est clair que c'est difficile. Ça nous est arrivé une fois ou deux d'avoir quelqu'un derrière. C'est pas pour enlever quoi que ce soit au niveau de la qualité des groupes qui sont passés derrière, mais voilà, ils ont ramé parce que ce mec sait tout faire et il sait prendre un public dès le premier morceau, le mettre dans sa poche et l'emmener là où il veut.
Fabio, on écoute quelques secondes, on écoute ça.
Hey everybody, how you doing? You listen to the radio station WFUNK, and when you feel real low and real down, you need to go and get a little pissed round. Remember, this is brought to you by your sponsor, the Flying Saucers Gumbo Special. Aye.
Et voilà, c'est comme ça que démarre l'album. Sugar Ray, DJ, ça lui va à merveille, non?
Ouais, sérieux.
Qu'est-ce qu'elle lui dit de ça?
En fait, le morceau est né de la manière suivante. On a fait une grosse tournée avec lui là, en 2012. Il a dû rester un mois et demi, 2 mois à la maison. Et c'est là où on a vraiment appris à se connaître. Dernier concert de cette tournée, à la fin de la balance, on lui avait appris, il parle un petit peu le français, il connaît quelques mots, nous on a une espèce de cri de ralliement qui est ce terme, pichetrao. Et je sais pas pourquoi, on est parti à délirer là-dessus, la balance est finie, maintenant, let's go pichetrao. Et puis on a déconné là-dessus pendant 5 minutes parce qu'il n'y avait pas d'autres balances derrière. Et puis en sortie de scène, vraiment on s'est bien marré à faire ça. Et Ray nous sort, c'est complètement stupide, c'est idiot, mais des fois c'est les morceaux les plus idiots qui fonctionnent.
Qui marche le mieux.
Et on l'a pris au mot, on a dit on va écrire un morceau, ça va s'appeler Pichetrao quelque chose.
Pichetrao Time.
Et donc ça c'était en septembre 2012, on a eu l'opportunité d'avoir un studio pour un autre projet, et on a demandé à Ray d'enregistrer quelques phrases avec le terme Pichetrao. Mmh, voilà. Mmh. Donc je dois avoir une quinzaine de phrases où il fait tout et n'importe quoi qui vaut son pesant d'or.
Collecteur.
Et voilà, sur la dernière résidence de la préparation en album, moi j'avais bien en tête de faire un morceau avec ça, il manquait un truc, on trouvait qu'il nous manquait un petit truc pour commencer l'album, et on est parti sur ce morceau, voilà, sachant que Ray avait enregistré ça et qu'il fallait qu'on l'utilise pour construire un morceau autour.
Et puis je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis ça en tout début d'album, c'est vrai que ça intrigue un peu, en plus c'est un morceau très très court, ça donne envie d'écouter le suivant d'ailleurs. On écoutera tout l'album, c'est promis, au cours des prochains Sweet Home Chicago. On avait déjà commencé parce que c'est un album qui n'est pas encore sorti, Fabio, mais qui passe déjà sur les ondes du collectif des Radio Blues.
Ouais, tout à fait, le collectif des Radio Blues a été le premier, on va dire la première asso, le premier organisme, je sais pas comment, ou le premier collectif.
Le premier collectif, ouais.
À dire, ok, on fonctionne avec vous, on se place en tant que partenaire parce que on le sent bien, est-ce que vous nous avez envoyé nous plaît, quoi. Donc ça a été le premier élément déclencheur, on va dire, de la promo.
Mmh. Et c'est, oui. Pardon, vas-y.
Non, vas-y, je t'écoute.
C'est pas seulement parce que le groupe a 17 ans d'existence, c'est aussi parce que ça sonne. Moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu aussi sur le reste de la discographie des Flying Saucers, parce que vous faites pas un album tous les ans, on l'a dit en début de l'interview. Le précédent remonte à 2010, c'était Crawfish Groove. Here ouais. Comes the Crawfish Groove, il avait été des disques Sweet Home Chicago de l'année, d'ailleurs, si je me rappelle bien. Et puis, il y avait déjà des reprises et pas mal de compos. La plupart, ce sont toujours des
compos. Moi, je crois qu'il y avait, comme sur celui-ci, de mémoire, je crois qu'il y avait que deux reprises.
Il y avait New Orleans de Gary Hughes Band.
Ouais, et Tilly Turns de Lee Rocker.
Eh ben voilà, t'as une mémoire d'enfer. En tout cas, c'était pour dire que cet album Swampy Top, moi je le trouve vraiment dans la lignée logique, malgré l'arrivée de nouveaux invités, malgré de nouvelles couleurs, malgré de nouvelles sonorités, c'est la suite logique de la discographie des Flying Saucers.
Nous, la seule pression qu'on s'était fixée, c'est pas qu'on s'était fixé, c'est qu'on avait, c'était d'arriver à faire un album qui soit perçu et soit à la hauteur du précédent, au minimum.
Oui.
Voilà. Après, je sais pas si on a réussi à faire mieux, ça l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, les premiers retours critiques vont dans ce sens-là. Ensuite, l'autre difficulté qu'on avait, c'était que on voulait profiter de ces invités, mais sans faire non plus un album de All Star Band, on peut appeler ça comme on veut, vraiment garder notre identité et pas trop se disperser dans plein de directions.
C'est ça qui est difficile, parce qu'on va pouvoir donner la liste complète. On a cité Jimmy Burns, on a cité Sugar Ray, on a cité Loretta, on peut rajouter Philippe Sauret, Anthony Stelmazac, Manu Bertrand, Laurent Béchat, Thomas Bess, Romaric Bouger, Bruno Thierry, évidemment il y a des cuivres là-dedans.
Ouais, hein, on avait déjà utilisé des cuivres sur l'album précédent sur 2-3 titres.
Donc il y a un monde fou là, il y a un monde fou quand même.
Après l'apport des percus, c'était pas pour dire on a Laurent Béchat de Refuse Bellefleur avec nous, c'est que de toutes les façons il y avait des plans percus sur ce morceau. Dès les premiers moments de l'écriture, je les entendais comme ça. Lui a rajouté des trucs en plus, mais moi il me fallait des percus sur ce titre, sinon il fonctionnait pas comme je l'entendais. Manu Bertrand au banjo, c'est arrivé après, quand on a réécouté le morceau avec Ray, on s'est dit tiens, il manque un petit quelque chose pour donner une autre couleur. Et donc du coup le choix s'est imposé très facilement, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît bien, avec qui certains membres du groupe tournent de temps en temps dans d'autres projets. Philippe Sauret, de toutes les façons, il était déjà présent avec nous sur l'album précédent.
Ouais.
Hormis le fait que ce soit un joueur de frottoir exceptionnel, c'est quelqu'un, quand on l'a en studio avec soi, il fait du bien, parce qu'il a une telle vision globale de la musique que ses avis, même s'ils ne sont pas forcément tranchés, sont toujours super importants pour nous qui sommes trop dans le projet. Il amène un regard extérieur qui fait du bien.
Oui, puis Philippe voilà, Sauret, il écrit très bien également, ça on peut le signaler par ailleurs, il ne fait pas que de la musique.
Oui, oui, tout à fait. Non, puis en plus, ouais, voilà, c'est un gars en or, quoi. C'est, quand j'ai demandé aux copains, moi j'aimerais bien faire revenir Philippe pour cet album, même s'il joue moins que sur le précédent, parce que le choix de mettre du frottoir n'était pas justifié sur pas mal de morceaux cette fois. Tout le monde a dit, oui, il faut, quoi, c'est obligé, et pas que musicalement, même si, ne serait-ce que musicalement, ça coule de source, voilà, c'est vraiment un mec bien à avoir avec soi en studio.
Alors, Fabio, dans les Flying Saucers, dans la disco, il y a Crawfish Groove qui remonte à 2010. Si on revient un petit peu en arrière, il y avait Raw and Spicy Covers, qui, comme son nom l'indique, sont uniquement des reprises. Il y en avait 12 déjà à l'époque. Ça, c'était pur New Orleans, j'allais dire. Et puis, encore, si on remonte en 2005, Radio Gumbo.
Ouais.
Hein, avec des titres en français.
Ouais, même plus tôt, hein, je crois, Radio Gumbo, c'est 2000 ou 2001.
Hein. Oh purée, alors c'est peut-être pas 2005, t'as raison, c'est peut-être encore plus ancien que ça,
ouais.
Si tu le dis. En tout cas, je sais pas pourquoi je dis 2005 d'ailleurs. Là-dessus, on retrouve Angelina. Moi, je me souviens d'un passage, c'était en 2000, il y a déjà 14 ans, putain, au festival de Mantes, la Jolie.
Ouais, 99 même, tu peux y aller, c'est encore plus vieux.
pour le passage, mais pour le tremplin, c'était en 2000, c'est sûr.
Non, le passage. Ouais, tremplin, ouais. 99 et passage 2000. Ouais.
Et je me souviens que vous faisiez déjà ce titre, Angelina. C'est un truc que vous faites toujours sur scène ou pas, pas
du Non, tout. Non, du non. Tout. On a complètement laissé tomber le répertoire français.
Complètement laissé tomber, ça veut dire que on va se rattraper tout à l'heure. Dans Sweet Home Chicago, on écoutera Angelina, parce que moi, ça me fait plaisir d'abord. Exactement. On reviendra sur les trois albums précédents. Donc, ça veut dire que Swamp It Up, c'est le quatrième ou j'en ai loupé un
Non, Swamp It Up, c'est le sixième.
Si, j'en ai loupé deux.
Avant Radio Gumbo, il y avait le Live à Cognac.
Ah ben ça, j'ai pas eu.
Ouais.
Bon.
Écoute, je vais voir ce que je peux faire, mais je crois qu'il m'en reste tout juste pour moi. Quoi.
Oui, graver, ça ira très bien.
Je t'envoie une copie.
Exactement.
Le Live à Cognac qui tombait dans une période charnière vraiment très difficile du groupe. Parce que en même temps que de faire ce Live à Cognac, on était en studio pour l'enregistrement d'un deuxième album. Mais on se séparait, à l'époque, il y avait un chanteur lead, on se séparait de lui. On commençait à plus s'ancrer, on était toujours dans les musiques du Golfe du Mexique, mais on commençait à plus s'ancrer dans le répertoire Louisiane. On avait un accordéoniste avec nous pour certains morceaux, c'était très compliqué à faire tourner une équipe de 6 mecs. Mais ce live, pour nous, signifie vraiment quelque chose, outre le fait qu'il ait été enregistré à Cognac, c'est que ça a été vraiment le soir de la première rencontre sur scène avec Cédric Le Goff, qui est devenu à l'époque le chanteur officiel et qui a fait son entrée dans le groupe à ce moment-là.
Voilà, Cédric Le Goff qui est l'unique chanteur d'ailleurs de cet album que je citais tout à l'heure, Radio Gumbo, et puis à signaler qu'Anthony Stelmazac était le guitariste titulaire des Flying Saucers.
Ouais, voilà, tout à fait.
Et ensuite, ça a été Fabrice Jousseau depuis, tu m'as dit, 2006 tout à l'heure.
2006, ouais. Hein,
voilà.
Donc, Anthony a dû quitter en 2004, si je dis pas de bêtises. On a essayé plusieurs guitaristes avec qui on s'est pas entendu sur la façon de bosser, sur le répertoire. Enfin, je pense que les parties guitare dans les Flying, c'est assez difficile parce que y a tellement de registres abordés.
Mais c'est pas un groupe guitare, de toute façon, les Flying Saucers. C'est pas
non,
avec.
Non, non,
hein,
pour nous, c'est un groupe de musique. Quoi.
C'est un groupe tout simplement avec plusieurs leaders, plusieurs chanteurs maintenant. Tu le signales, il y a trois chanteurs maintenant dans les Flying Saucers.
Ouais, voilà,
et puis plusieurs
Fabrice,
solistes.
Cédric et moi-même.
Voilà. Plusieurs solistes également, pas que de la guitare, il y a de l'accordéon, il y a de l'harmonica, il y a du clavier. Il faut faire swinger, sonner tout ça. Et voilà, il faut que chacun laisse sa place aux autres. Comment ça se passe?
Ça coule de source en fait. C'est-à-dire que quand on écrit un morceau ou quand on décide de s'approprier une cover, la première question c'est qu'est-ce qu'on va mettre en avant là-dessus. Bon, bien sûr, il y a le chant, et après, qu'est-ce qu'on va construire autour ? Qui va gérer ou l'idée de morceau ? Et voilà, c'est, moi je pense que ça deviendrait vite chiant si à chaque morceau, les trois solistes décident chacun leur tour de faire son petit chorus.
C'est ça, ce serait l'écueil, ce serait un peu le bœuf, quoi, puis on contrôle rien finalement.
Moi, bah si, si, ça, bien sûr ça peut être contrôlé, mais bon voilà, ça fait des titres de 10 km de long, et puis ça empêche de s'exprimer sur d'autres registres et de... Voilà, donc il y a des titres où c'est surtout de la guitare, d'autres c'est plus de l'harmonica, d'autres c'est plus du clavier, d'autres c'est plus de l'accordéon. Des fois on mélange un petit peu, mais je pense que c'est important de donner de la personnalité au morceau. Et si on met tout dans... Enfin, quand je dis « je », le groupe pense. Hein, si on met tout à chaque fois dans tous les morceaux, à un moment ça n'a ni queue ni tête.
Fabio, tu le sais, les gens en France aiment bien étiqueter la musique, même si c'est pas forcément souhaitable ni souhaité par tous. Comment est-ce que tu qualifierais la musique des Flying Saucers ?
Une musique grand public.
Ouais.
Ouais. Moi j'en suis persuadé.
Quand tu dis grand public, ça veut dire que vous touchez un petit peu à tout, mais quand même, quand on dit grand public, il y a une notion de variété derrière tout ça. Est-ce que ça a les mêmes consonances que...
Par le choix géographique du répertoire, déjà ça peut paraître bizarre.
La Louisiane.
Ça nous permet d'aller de se passer d'un genre musical à l'autre. Pour ceux qui aiment bien foutre des étiquettes sur les genres musicaux. Voilà, nous on s'en fout un peu de savoir si c'est un shuffle, un swing, un zydeco, tout ce que tu voudras. À partir du moment où, à notre avis, on trouve que le morceau touche les gens dans le sens où ils ont envie de l'écouter, ou envie de danser, ou envie d'y participer, il n'y a pas de frontière. Voilà. Quand on va voir, tu parles de variété, on va prendre quelqu'un qui fait de la variété française. Quand tu vas voir Jean-Louis Aubert sur scène, par exemple, on peut citer n'importe qui, hein. Tu t'en fous de savoir si son morceau c'est du calypso, ou n'importe quoi. Voilà, il faut que le titre te parle, te fasse penser à des choses, crée des émotions, et une certaine dynamique ou pas, mais touche les gens, quoi. Et nous, le but du jeu, c'est pas de dire voilà, on va faire ça parce qu'il faut que ce soit comme ça et c'est comme ça et pas autrement. On va faire ça pour toucher les gens.
Ça m'amène à la question suivante, Fabio. Qu'est-ce qui est le plus important selon toi, parce que tu peux pas forcément parler pour tes petits camarades de jeu, mais qu'est-ce qui est le plus excitant finalement de jouer sur scène et de voir que le public réagit et danse, ou de créer un album et puis ensuite d'assister en direct live à sa sortie?
C'est pas du tout la même philosophie, pas du tout la... autant il y a de l'excitation sur la création d'un album, autant il y a une autre excitation sur un concert. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, les morceaux, ils ont une version concert et une version album. Sur un concert, nous on joue plus sur la dynamique, sur l'interaction avec le public. Sur un album, on essaie de donner... notre état d'esprit qui est d'essayer de faire taper du pied et chanter, mais on peut pas le faire du tout de la même manière que sur scène. Pour moi, toute la différence est là, je le répéterai jamais assez, c'est on va voir un concert et on écoute un disque.
Il y a Sylvie, l'ami Sylvie Gauthier-Marmol, d'ailleurs, qui est dans la liste des remerciements à l'intérieur du disque. Ouais. Je peux vous dire que c'est une bombe, il tourne en boucle depuis plusieurs mois. J'espère que vous avez tous passé commande. On a besoin de ce genre de soutien aussi quand on, a une gestation longue.
Franchement, cet album, il s'est fait. Il n'aurait pas pu se faire sans toutes les personnes qui ont participé.
Il y a l'équipe de Band Blues, entre autres.
L'équipe de Band Blues, parce que avec eux, c'est une longue histoire depuis qu'on s'est rencontrés avec Sugar Ray. Concernant cet album, quand on a la toute première résidence, c'est faite chez Patrick Le Cacheur.
Ça sentait le cigare, j'imagine.
Oui, mais c'était pas que le cigare, je vous l'accorde. Mais bon, on était là pour bosser.
Ouais.
C'est fait chez Patrick Le Cacheur. Des gens de l'équipe de Band Blues, que ce soit Sylvie ou Luc, ont filé la main pour nous faire crêcher. c'est quand même super important d'avoir ce genre de soutien et d'aide parce que ouais, c'est pas évident d'accueillir 5 mecs qui vont faire de la musique de 9h du matin à 19h avec des emplois du temps un peu particuliers et voilà, enfin nous voilà, c'est, déjà, eux, ça a été les premiers à dire, bon, ben, à notre façon, on va vous filer un coup de main, c'est OK, vous pouvez venir bosser chez nous.
On peut citer d'autres personnes importantes pour la gestation de ce disque, ouais, à quelque niveau que ce soit. Il y a Michel Masson, il y a des amis comme Jalbi, Alain Gelbert, David Bertz.
On a eu quelques mécènes ouais, qui sont cités là-dedans, parce que cet album nous a coûté très, très cher. Il nous coûte très, très cher. On espère avoir un retour sur investissement, on va dire, d'ici 2 ans. Bon, après, en budgétisant de la première résidence jusqu'aux derniers envois qui ont été faits cette semaine, je pense qu'on tourne sur un budget à peu près de 19 000 euros.
Vous avez pensé, quand je dis vous, c'est l'ensemble du groupe, à faire un système genre Kiss Bank, tu sais, où on demande aux gens de sponsoriser.
Non, ça on voulait pas.
Ah ouais.
On voulait pas, c'était vraiment un choix de rester entre nous. Mmh. Rester entre nous et de rester avec les fans de la première heure. Voilà. Qui ont fait ce qu'ils ont pu, mais qui l'ont super bien fait. On sait pas comment leur dire à chaque fois encore merci, quoi. Et voilà. Il y a plein de personnes là-dedans qui, je vais pas les citer parce que ça ne regarde qu'elles, qui nous ont aidés financièrement.
D'accord.
Ensuite, il y a toute une équipe qui s'est retrouvée autour de la conception de l'album. J'espère que je ne vais pas en oublier parce que ce serait dommage, mais Jacques Panis du label Quart de Lune, qui nous a filé vraiment un super coup de main. Là, il est en train de bosser en ce moment, Dominique Marie, pour tout ce qui concerne le boulot d'attaché de presse.
Dominique Marie, c'est également le directeur de Radio 666 et le président de la Ferraroc, il me semble.
Ouais, tout à fait.
Salut Dominique.
Voilà, qui fait un super boulot, on lui a filé des objectifs. Voilà, l'album n'est pas sorti pour l'instant, les objectifs sont atteints, donc on espère qu'il va y avoir encore plus. Il y a la Team Zik, ce qu'on appelle... avec Muriel et Valérie Sudeur qui nous ont aidés à trouver des subventions auprès de la SCPP, ce qui nous a sorti vraiment une très très grosse épine du pied. J'ai envie de citer aussi bien sûr parce que elle nous soutient depuis 2010 et vraiment le boulot avec elle est vraiment super. C'est Aurélie Roquet et maintenant Stéphane qui a rejoint l'équipe On The Road Again. Un grand merci à tous les deux, parce qu'ils ont permis vraiment beaucoup de choses par rapport à cet album.
D'accord, bah écoute, il y a énormément de monde qui a travaillé autour de ce disque, ça s'appelle Swamp It Up, c'est un album qui contient 12 titres.
Je voudrais rajouter aussi,
vas-y, Fabio.
C'est pas pour faire les jebottes ou quoi que ce soit, mais franchement, on a établi des partenariats qui sont ce qu'ils sont, mais qui sont vraiment super pour nous, avec... notamment Soulbag, Rock et Folk, la Ferraroc et le CRB. Voilà.
Voilà, et le collectif des Radio Blues, c'est gentil de citer ça. Je voudrais revenir sur le répertoire en quelques mots. On disait simplement deux reprises. Donc, on retrouve Rainy Night in Georgia. Alors là, c'est Jimmy Burns qui chante ça. Pourquoi ce titre? Parce que c'est lui qui le chantait au départ ou...
Pourquoi ce titre? Pour la bonne et simple raison que pendant la tournée... on voyageait avec mon véhicule, et c'est moi le DJ quand je conduis. On écoutait une version de Ray Charles et il s'est mis à chanter dessus et il nous a foutu une branlée à chanter là-dessus dans la voiture.
Bah oui, alors attends, ça c'est un morceau de Tony Joe White, mais il y a eu maintes reprises. Je sais pas si tu connais celle d'Otis Rush des années 70, qui a tombé.
Tom, bien entendu, enfin voilà, il y en a une pléthore, mais voilà, franchement. Jimmy chante ce titre divinement bien. Voilà, à vous de juger et d'écouter l'album pour dire ce que vous en pensez, mais franchement, je trouve que Jimmy place la barre très haute.
On écoutera ça tout à l'heure, c'est promis, Fabio. Il y a une autre reprise, là, c'est Sugar Ray qui s'y colle, c'est Pray for Your Daughter. Ça, je connais moins, par contre.
C'est un titre d'André Williams.
André Williams, d'accord.
Voilà,
je voyais Williams, mais je cherchais lequel.
Autant du R&B dans les années 50, du rap sur le tarp. Pour moi, c'est une espèce de barjo sublime. Peut-être un des premiers punks de l'histoire. Et, voilà, moi j'adore le répertoire d'André Williams. Sauf que notre version n'a vraiment plus rien à voir avec, avec son titre à lui. Là. Pour le coup, c'est Stéphane Stanger et Cédric Le Goff qui ont proposé une adaptation du truc. C'est vraiment vrai. Enfin, voilà, ils sont. Autant le côté André Williams sur ce morceau est très rock'n'roll, autant nous on a foutu une espèce de cajun un peu rock'n'roll. Mais enfin, il est très, très cajun dans la façon dont on a adapté le morceau.
On écoutera ça tout à l'heure, c'est promis, Fabio. Juste une dernière question. Il y a Nat qui s'inquiète de savoir quand est-ce que vous revenez en Normandie. J'imagine que ce sera au moment où vous serez invité, quoi.
Bah ouais, voilà. Hein, les organisateurs voilà. Normands, appelez.
Ah, et puis, j'allais dire un petit peu partout, on vous attend. Alors, la sortie de l'album, c'est pour le 29 septembre. Donc, octobre, novembre, décembre, ça va être la promo. Il y a des dates, il y a une tournée déjà de Calais pour 2015.
Oui, on a commencé ça début septembre.
Ouais.
Ensuite, on va mettre un petit stand-by à partir de la mi-novembre. On voulait vraiment pas mélanger la promo de l'album et ensuite une programmation un petit peu plus appuyée sur la période. Enfin voilà, laisser le temps de mûrir et de voir comment les médias et les auditeurs allaient accueillir l'album pour ensuite essayer de faire une belle saison au niveau du booking en 2015.
Petite anecdote, il n'y a pas de chronique dans le dernier Blues Magazine, comment ça se fait ?
Bah, tout le monde le sait, maintenant je l'ai dit, Blues Magazine, on comprend pas pourquoi.
Non mais attends, depuis 2000 que vous faites des disques, je sais pas, ou alors ils doivent les garder tous pour faire une super compilation à la fin, j'en sais
rien. Non, mais bah après ils font, voilà, chacun est libre de chroniquer ou pas chroniquer.
Oui, bien sûr.
Voilà, après, c'est vrai qu'on se pose des questions quant à la rédaction du magazine, parce que ça fait 4 albums où on n'existe pas.
En tout cas, Fabio,
c'est pas grave, ils font comme ils veulent, ouais, encore une fois.
On va terminer sur une bonne note, parce que dans Soulbag, page 56, il y a l'ami Christophe Moreau qui s'y colle et qui vous met 4 étoiles et demie sur 5. Et en plus, vous êtes le seul groupe français sur le 14 titres sampleur de Soulbag. Donc
après,
chapeau
ça,
les mecs.
C'est de l'actualité qui fait que j'ai pas lu toutes les chroniques. Tu vois,
ah oui, mais attends, mais je peux te dire que j'en ai déjà lu un paquet et il y a plein d'autres albums qui auraient mérité d'y figurer. Est-ce que tu permets que je lise la chronique à l'antenne?
Oui, si tu veux. Ouais.
Alors, c'est pas moi qui parle, c'est Christophe Moreau. On se demandait comment le groupe allait rebondir après son excellent Crawfish Groove. On le sait, ce nouveau Swamp It Up affiche le niveau de maîtrise, parfois de retenue et de réussite que seule la classe autorise. Freeborn, chanté par Loretta, et The Great Zombie, avec leur rythme médium composite, leur guitare pesante, leur harmonica sépulcrale, mettent l'ambiance en place, moite, épaisse. On n'entre pas dans les marais louisianais sans prendre de précautions. C'est la totalité de la Louisiane qu'on visite, avec ses grands espaces, ses places de village, ses grandes villes. La musique s'adapte au lieu et à l'horaire, intimiste comme sur le beau Dance Around Me, la sombre balade mélancolique Don't Look Back que Harry Connick Jr. n'aurait pas renié. L'apaisant Rainy Night in Georgia, sorti en clôture par Jimmy Burns, on vient d'en parler, festif, cuivré et funky sur What You Doing First, à reprendre en chœur sur Pray Your Daughter Now, chanté par l'ubiquiste Sugar Ray Rayford, et tout simplement dansante sur le reste du disque. Le groupe déroule les codes louisianais, rhythm and blues, zydeco, swamp, blues, rock and roll, avec un naturel peu courant. Grâce à son talent musical et vocal, il y a peu de très bons chanteurs en France, mais les Saucers en ont 3. Tour à tour, Cédric Le Goff, Fabio Izquierdo et Fabrice Jousseau nous enchantent par leur capacité à trouver le bon ton, à interagir avec la musique. Ce chant partagé et l'équilibre des instruments, quasi frustrant tant on aimerait entendre plus de solos d'accordéon, harmonica, guitare ou orgue, confirme la solidité d'un vrai groupe ensemble depuis des années, mais qui reste frais, concert après concert, disque après disque. La qualité de ce dernier opus ne vous laisse pas le choix à se procurer d'urgence. C'est signé Christophe Moreau, et c'est dans le dernier Soulbag, page 56, non pas dans la petite compilation des chroniques de disques européens qui s'appelle Blue Planet, mais directement dans l'ordre alphabétique, juste avant Rusty Foster. Voilà, bah, chapeau les gars.
C'est le genre de chronique... Moi, je sais que pour l'instant, moi, j'ai reçu celle de ABS Magazine et de Rock et Folk. C'est le genre de truc. Bon, ça fait toujours bizarre hein, quand on parle de son boulot comme ça, parce que, enfin, voilà, c'est.
Ça fait plaisir.
C'est encourageant. Je ne sais pas trop comment prendre la chose. Il faut garder la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Mais ça fait plaisir d'avoir cette reconnaissance de savoir, voilà, on fait pas ce boulot pour rien, on arrive à faire plaisir à des gens et les gens comprennent notre démarche. Voilà, chose qui n'était pas facile il y a quelques années quand on essayait d'imposer ce répertoire qui sulpe. papier peut paraître un peu décousu, quoi, mais qui fonctionne. Enfin, nous, on trouve qu'il fonctionne très bien.
Ah non, décousu, non, pas du tout. Et puis, on terminera avec la page 70 du dernier Blues & Co. qui vient d'arriver dans les boîtes aux lettres, numéro 69 avec Johnny Winter en couverture. Il y a une chronique de Queen Lolo qui vous met 5 étoiles, voilà.
C'est le pied.
Voilà.
en tout cas, merci beaucoup à tous qui essayaient de véhiculer un petit peu notre message. On espère que l'album va vraiment vous botter comme les chroniqueurs.
Il n'y a pas de raison.
On a l'air de l'avoir apprécié et maintenant on vous donne rendez-vous sur scène.
Voilà. Exactement. Fabio Izquierdo des Flying Saucers Gumbo Special. Voilà, c'est la dénomination complète du nom du groupe. À bientôt sur la route du blues, Fabio. Merci pour tout.
À très bientôt, merci.
Merci pour tout. On va écouter ces fameux extraits prévus, promis. Et puis tu restes à l'antenne, bien sûr.
Ça roule.
Tu restes à l'écoute. Salut, Fabio. Merci.
À très vite.
À très vite. Women and Buicks, extrait de cet album des Flying Saucers Gumbo Special, qui fait l'objet d'un clip d'ailleurs, que vous pouvez voir sur YouTube, sur Facebook, un peu partout. On poursuit comme prévu, comme promis, avec cette fameuse reprise de Tony Joe White, Rainy Night in Georgia, chantée par Jimmy Burns.
I feel like it's raining all over the world. feel like it's raining all over the world. Neon signs flashing, taxi cabs, buses passing through the night. A distant moaning from a train seemed to play a sad refrain through the night. A rainy night in Georgia, such a rainy night in Georgia. I feel like it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. How many times I wonder, it still comes out the same. How you look at it, or think of it, that's life. So you just got to play the game.
Flying Saucers avec Jimmy Burns au chant sur le titre qu'on vient d'entendre, reprise bien sûr du répertoire de Tony Joe White, Rainy Night in Georgia. Voici la fameuse reprise d'André Williams, Pray for Your Daughter avec Sugar Ray au chant.
Corner of the door. big stack of blunts in a corner of the door. I said, some blow. Oh, she was going down fast and I was coming up slow. Messing on the job, trying to get her some blow. I told that woman,
Sugar Ray avec les Flying Saucers. C'est ainsi que se termine la deuxième heure de Sweet Home Chicago numéro 944. Si vous êtes en rediff, c'est quasiment fini. Sinon, vous profitez du direct ou du podcast. Vous savez que Sweet Home Chicago est une émission qui dure 3 heures, un samedi sur deux de 13h à 16h.